Les débuts d'année, c'est souvent le temps de se projeter vers l'avenir, de bâtir des nouveaux projets, de faire des résolutions. Et c'est aussi un moment propice pour s'arrêter et faire un bilan de l'année écoulée. En tout cas, c'est ce qui se passe chez moi. Et en ce sens, je ne peux pas passer sous silence un événement qui a marqué le début de cette année et vous a probablement aussi bouleversé. Et là, je pense au drame qui est survenu à Crans Montana. Cet incendie a coûté la vie à 40 personnes et en a grièvement blessé plus d'une centaine d'autres. Et je regardais hier soir encore la liste des prénoms et leur âge. Et la moitié des victimes avaient moins de 18 ans. La plupart des autres avaient la vingtaine. Et c'est juste dramatique. Et en disant cela, je pense aux proches des victimes qui doivent vivre un cauchemar à l'heure où je parle. Là, je pense aux parents, bien évidemment, aux frères et sœurs, aux amis proches. Et je pense que la plupart des victimes et des parents se sont probablement souhaité la bonne année et surtout la bonne santé pour 2026, quelques minutes avant l'incendie. Mais personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer quelques minutes après ces souhaits. Mon ami Jérémy Cavin, pasteur à l'Église réformée baptiste de Lausanne, a publié un excellent article sur Évangile 21 que je vous encourage à aller lire d'ailleurs cette semaine, où il propose 10 réflexions suite à ce terrible drame. Et je me suis inspiré un petit peu de sa réflexion, alors j'ai pris un point que j'aimerais vous lire maintenant, et c'est le cinquième point qui s'intitule « La Suisse n'est pas épargnée ». Si tu peux juste avancer, mais bon, c'est pas très grave pour le moment, non plus. Voilà, reviens en arrière. Voilà, on est là. Alors, je vous lis l'extrait du cinquième point. Certes, notre cœur est parfois ému par la souffrance des populations victimes de guerres, de famines, d'attentats ou de catastrophes naturelles un peu partout dans le monde. Mais cela reste souvent loin de chez nous et nous passons vite à autre chose. Avec le drame de Crans Montana, l'émotion est d'autant plus vive qu'elle a touché notre pays. Ce petit paradis helvétique si souvent préservé au cours de l'histoire. Il serait peut-être temps de se demander si la Suisse a vraiment droit à la paix, à la sécurité et à la prospérité, alors que sa population se détourne largement de Dieu et se complaît dans une arrogante autonomie vis-à-vis de son Créateur. Prions que ce drame amène nos contemporains à faire leur les vérités de la troisième strophe de notre hymne national qui rappelle notre héritage chrétien. Et je vous cite ici l'hymne national suisse. Donc la troisième strophe dit « Lorsque la sombre nuit, la foudre éclate avec bruit, notre cœur presse encore le Dieu fort. Dans l'orage et la détresse, il est notre forteresse. Offrons-lui des cœurs pieux, Dieu nous bénira des cieux. » C'est dans l'hymne national suisse, les amis. Et moi, je trouve que ces paroles sont fortes. Elles nous rappellent qu'en dehors de Dieu, notre sécurité est relative, fragile, toujours précaire en réalité. Même lorsque l'on habite dans l'un des pays les plus sécurisés au monde, et vous faites partie, enfin vous, parce que moi je suis en France, mais en Suisse, dans le top 3 des pays les plus sécurisés au monde. Jérémy Cavin fait le lien avec deux tragédies évoquées par Jésus rapportées au début du chapitre 13 de l'évangile de Luc. Et là, on y trouve une injustice flagrante et je dirais même sanglante lorsque Pilate fait massacrer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Et puis, il cite aussi un accident de la vie lorsqu'une tour s'est effondrée sur 18 personnes. Et face à l'émotion suscitée par ces drames, Jésus va dire cette phrase, les amis, écoutez bien. Voilà comment Jésus répond à des gens qui étaient presque en train de douter de Dieu, qui disaient, mais est-ce qu'ils ont plus péché que les autres? Pourquoi eux et pas d'autres? Et regardez comment Jésus répond. Luc 13, versets 4 et 5. Pensez-vous que ces gens étaient plus coupables que tous les autres ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Jésus ne dit pas que ces victimes sont mortes à cause de leurs péchés, ni que Dieu les aurait frappées plus que d'autres. Il refuse toute lecture simpliste ou accusatrice. Jésus ne manquait pas de compassion. On sait qu'il a pleuré lorsque son ami Lazare est mort, par exemple. Mais ici, il nous rappelle que les tragédies ne sont pas là pour désigner des coupables, mais pour nous confronter à une réalité universelle. Nous aurons des comptes à rendre à notre Créateur. Et nous sommes tous, sans exception, appelés à la repentance. C'est l'appel que Dieu donne à tous les humains, ici et maintenant. Non pas une repentance superficielle ou culpabilisante, mais une repentance profonde qui reconnaît que nous vivons trop souvent comme si le temps et la sécurité nous appartenaient. Comme si Dieu pouvait attendre que nous ayons pleinement profité de la vie ici-bas avant de nous intéresser à lui et à notre avenir éternel. Je sais que cette vérité dérange et que la plupart de nos contemporains préfèrent l'ignorer. Peut-être vous en faites partie. Mais la mort physique, aussi terrible soit-elle, n'est pas la pire des choses qui puissent nous arriver. Il y a pire que d'être confronté aux flammes d'un incendie terrestre. C'est d'être confronté au jugement éternel, que la Bible décrit parfois par l'image d'un feu qui ne s'éteint point. Cela n'est pas pour vous effrayer que je souligne la réalité de l'enfer, mais pour souligner l'urgence de prendre Dieu au sérieux. La doctrine de l'enfer est précisément là pour nous rappeler que Christ a souffert afin de nous éviter d'y sombrer. Elle nous conduit à contempler les souffrances de Jésus. Lui qui n'était ni coupable ni pécheur a connu la violence, l'injustice, l'abandon et la mort. À la croix, Dieu ne reste pas spectateur de la souffrance humaine, il l'assume, il la porte et il en révèle le sens. Et en ce début d'année, mes vœux ne sont donc pas ceux d'une année confortable ou prévisible, mais ceux d'une année vécue devant Dieu, avec sérieux, repentance, foi et espérance. Une année où nous acceptons d'être réveillés, repris, consolés, recentrés par la parole de Dieu. Et ma prière pour vous, pour moi, est qu'en 2026, le Seigneur nous donne à tous la force de nous repentir devant lui quand ce sera nécessaire. De reconnaître à la fois sa majesté et notre incapacité à lui plaire. Qu'il nous accorde la capacité de pardonner, de demander pardon lorsque nous agissons pas comme nous ne le devrions. Qu'il nous aide à vivre chaque jour, chaque circonstance, bonne ou mauvaise, pour sa gloire. Qu'il nous rende humbles, sensibles et attentifs à la souffrance des autres. Qu'il nous aide à chercher l'intérêt des autres, de nos proches, de notre communauté, avant le nôtre. Qu'il nous donne la force de tenir ferme devant la tentation et l'opposition. Qu'il nous aide à contrer nos tendances et nos déviances naturelles en obéissant à sa parole. Qu'il nous remplisse de son amour, de sa joie et de sa paix parfaite. Et enfin, qu'il nous apprenne à vivre ici-bas comme des globe-trotteurs, c'est-à-dire comme des étrangers et voyageurs qui ne s'enracinent pas pour l'éternité dans la région genevoise, mais qui aspirent à une nouvelle terre où Christ régnera sur un monde pacifié et sans souffrance. Voilà ma prière pour nous pour 2026. Est-ce que vous pouvez dire Amen ? Merci. Alors, maintenant que j'ai fait mes vœux solennels, je les ai lus, vous avez vu, c'était sérieux, mais je voulais vous communiquer ça parce qu'il y a tellement de choses qui s'écrivent, qui se lisent, qui se regardent sur YouTube avec ce drame qui s'est passé à Cramponade. On ne sait plus quoi penser, en fait. On est noyé d'informations, noyé d'émotions, noyé de beaucoup de choses et on n'arrive pas à prendre assez de recul et ça me semblait nécessaire de le faire ici. Alors, je l'ai pris en m'inspirant de mon frère. Bien sûr, j'ai amené ma touche personnelle, mais je vous invite à aller lire son article, il est vraiment excellent, édifiant, et ça nous recentre en fait sur les choses essentielles. Non pas qu'on n'a plus d'émotions, mais qu'on les canalise, ces émotions, correctement. D'accord ? Alors maintenant, on reprend notre série. Je ne sais pas si vous êtes là juste de passage. Je sais que Johnson, un ancien étudiant qui était là il y a 3 ans, il est en C3, il est là pour la semaine, il est revenu nous visiter, donc allez le saluer à la fin du culte. On est donc dans une série qui s'appelle « La grande histoire », une série qui est là pour deux objectifs. Le premier, c'est pour vous. C'est hyper important de connaître la grande histoire, c'est-à-dire tout le fil rouge qui traverse la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je n'ai pas la prétention d'aborder chaque livre de la Bible, mais de prendre les textes essentiels. Et pour cela, on s'est aidé d'un manuel qui s'appelle « La grande histoire ». C'est pour ça qu'on a intitulé cette série « La grande histoire ». Ce sont 12 rencontres, donc nous on en fait un petit peu plus parce que parfois je coupe la rencontre en deux, mais normalement si on le fait avec nos amis, et c'est l'objectif, c'est de leur faire découvrir le message central de la Bible en 12 rencontres. Et ça se fait même en 6 rencontres si vous pouvez accélérer. Alors nous on le fait en 12 ici, voire même 13, voire 14 ou 15, mais c'est parce que voilà, il y a eu la fête de Noël, j'ai dû couper le message en deux, il y a eu 2 ou 3 moments où j'ai dû interrompre, je n'ai traité que la moitié. Et donc là, on a traité effectivement la dernière session, qui était la session 6, on a regardé les 12 premiers versets du chapitre 2. Est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé dans ce chapitre-là, au début du chapitre ? Si je vous dis du vin, à quoi vous pensez ? Les noces de Cana. Est-ce que vous vous souvenez de ce texte ? Un passage extraordinaire, à vrai dire, c'est le passage préféré, pas le mien, mais de celui d'un autre ancien. Il n'y en a pas 50, donc vous devinez qui c'est. Moi, mon passage préféré, c'est 1 Timothée 5:23. Vous lirez dans la Bible à quoi il s'agit. C'est aussi de la même chose que l'on traite. On aime faire la fête, les amis, et vous savez d'où ça vient ? C'est parce qu'on aime Jésus. Jésus aimait faire la fête. Eh oui, pas jusqu'à l'ivresse, attention, ok ? Mais un bon vin, on apprécie. Et Jésus aussi, parce qu'il va transformer 700 litres, alors entre 460 et 700 litres d'eau en vin. Il fait un miracle extraordinaire, d'une manière très discrète, mais il va faire un miracle extraordinaire. Et on voit une facette de Jésus, et c'est ce qu'on a vu. Là, maintenant, c'est moi qui vais lire aujourd'hui, parce qu'il y a très peu de versets, mais on continue le texte dans Jean, et donc on va voir une autre facette de Jésus. Donc vous imaginez, on est dans la joie, on vient de faire la fête, hein, Jésus vient de transformer de l'eau en vin. Okay ? Et maintenant, on continue. Verset 13. Donc vous pourrez ici suivre le texte avec moi. Là. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Je viens de le lire, ça. Désolé, c'est le début d'année, hein, vous me pardonnerez. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans !» Mais attendez, j'ai encore raté un truc là. Verset 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Fin de la parole de Dieu. Et donc, on va essayer maintenant de répondre aux questions qui sont dans le manuel. Alors, je vous rappelle une petite règle. Le but, c'est que vous puissiez comprendre le texte. Là, c'est juste une aide, en fait. Mais quand vous serez avec une personne, si vous faites ce parcours découverte de la Bible, quelque part, l'objectif, c'est pas de répondre à toutes les questions ou que vous attendiez à ce que la personne réponde à toutes les questions de manière exhaustive, d'accord ? C'est pour vous rassurer, vous, que vous puissiez connaître le contexte, et si jamais la réponse que votre ami était complètement à côté de la plaque, alors vous pourriez corriger, d'accord ? C'est juste ça l'objectif, d'accord ? Donc c'est pas... Ne venez pas avec cette idée qu'il faut que je mémorise tout le message de Franck, d'accord ? C'est pas du tout l'intention. L'intention, c'est de vous rassurer, de vous dire, ok, oui, tu as déjà vu ce texte, tu le connaissais déjà, mais là, ça te rassure. Donc le message, la prédication, elle est juste là pour vous rassurer, pour vous aider, pour vous donner de l'assurance, d'accord ? Alors, on va répondre à la première question. Vous êtes tout à fait capable d'y répondre. Je réponds en même temps que vous, c'est tout, et on me filme. C'est la seule différence. Versets 13 à 17, que pensez-vous de l'attitude de Jésus ? En quoi cela contraste-t-il avec l'attitude de Jésus à Cana ? Et effectivement, j'ai mis deux images du même Jésus. Alors, c'est un film, hein, mais c'est le personnage de Jésus, ici, c'est dans The Chosen. On le voit joyeux, hein, à Cana, il fait la fête avec ses amis, il est content. Et on le voit en colère, en train de fabriquer un fouet, de renverser des tables et de chasser les marchands du temple. Waouh ! Quel contraste, les amis ! Et c'est la question qu'on nous pose, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle attitude de Jésus ? La première, vous l'avez vu à Cana, on a dit qu'il était rempli de douceur, il était généreux, joyeux de faire la fête et de même de la prolonger. Et on le voit agir d'une manière très discrète. Le texte précise que l'organisateur de la fête n'était même pas au courant qu'il y avait de l'eau qui avait été transformée en vin. Il n'était pas au courant. Et donc, ça veut dire que Jésus, à Cana, agit d'une manière très discrète. Ok ? Quand on arrive ici, juste hein, ça suit le texte, il y a un contraste énorme. Et là, il va chasser ces gens du temple. Il se met en colère. Alors attention, c'était une sainte colère. Elle était vive, elle était réelle, mais elle était contrôlée. Parce que là, je vous vois venir. Ah oui, alors si Jésus s'est mis en colère, moi aussi je le peux. Oui, tu peux te mettre en colère et tu devrais te mettre en colère. Mais bien souvent, lorsqu'on se met en colère, c'est déjà trop tard, on a déjà dépassé les bornes. Je le précise parce que la colère n'est pas un péché, la colère est normale et il faut qu'elle soit là. Quand on est face à une injustice, on devrait avoir de la colère. Sauf qu'on va l'exprimer d'une manière incontrôlée et c'est là où on va déraper très très rapidement. Et c'est là où on pêche tous, les amis, tous, sans exception. En tout cas, ici, on voit vraiment un contraste entre les deux. Et ça révèle, en fait, une chose, c'est que Jésus, il n'est pas unidimensionnel. Il n'est pas le doux Jésus de nos images pieuses, il est saint, et sa sainteté s'oppose radicalement au péché. À Cana, il honore une fête qui est légitime et qui est bénie par Dieu. C'est un mariage. Alors qu'au temple, il s'oppose à la corruption de ce qui est sacré. Et sa colère n'est pas capricieuse. Elle est proportionnée à l'offense faite à son père. Donc cette attitude nous enseigne que l'amour de Dieu n'exclut pas sa justice. Le même Jésus qui transforme l'eau en vin pour des mariés est celui qui purifie son temple. Jésus est à la fois l'agneau, hein, Isaïe 53, et le lion. Il est à la fois le berger doux et humble de cœur et le juge impartial, totalement saint. Et en tant que père, les amis, je partage les mêmes contrastes. Hein, parfois, c'est pas parfois, la plupart du temps, je prends soin de mes enfants, je leur fais des câlins, je leur prépare un bon repas, je les invite au cinéma ou dans un parc d'attractions, ou bref, on prend soin de nos enfants. Et tantôt, eh bien, il arrive qu'on se mette en colère parce qu'ils dépassent les bornes. Et c'est la même chose, en fait. Je suis le même père, le même personnage, c'est simplement qu'on me regarde à des moments différents. Et effectivement, si on regardait que la colère, on se dirait « Waouh !» Ben non, je suis les deux en fait. Eh bien Dieu est un peu comme ça. Et Jésus, reflète ici les deux éléments contrastants, mais réels de sa personne. Sixième question à laquelle on peut répondre, on doit répondre, pourquoi Jésus chasse-t-il les changeurs de monnaie du temple ? Il y a plusieurs raisons, alors vous vous en doutez. La première, c'est que, et le texte est clair, il transformait la maison de prière en commerce malsain. Alors attention, Jésus n'est pas en train de rejeter le commerce en général. Hein, il ne faudrait pas dire « Ah, tous les commerçants, les commerciaux, tous ceux qui travaillent dans le business, c'est pas bien, regarde ce que Jésus fait dans le temple. » Non, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. En fait, ce que Dieu et Jésus rejettent ici, c'est l'exploitation qui pollue l'accès à Dieu. Le temple était devenu un lieu de profit plus qu'un lieu de rencontre avec Dieu. Hein, on avait basculé de l'autre côté. L'adoration était devenue un supermarché religieux. Vous voyez, un mall, quelque part, Balexer à côté. C'était ça. C'était un temple au départ et c'est devenu Balexer. Vous imaginez la chose ? Jésus se pointe pour venir prier à Balexer un samedi après-midi. À votre avis, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait pris une corde, il aurait fabriqué un fouet et il aurait fait fermer tous les magasins. C'est un petit peu ce que Jésus fait ici dans notre texte. Les gens avaient détourné ce lieu qui était un temple où on était là pour prier, pour recevoir une communication de la part de Dieu, et on en avait fait un business. Et c'est incroyable et ça ne se fait pas. Et donc Jésus dit « Vous ne faites pas ça dans la maison de mon Père. » D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'il va remettre les pendules à l'heure. Et qu'est-ce qui se passait encore ? C'est que ces gens exploitaient les fidèles qui venaient, qui avaient obligation finalement d'avoir un sacrifice. Parce que quand on venait à la Pâque, c'était la Pâque là, c'était la période de Pâque, eh bien on venait pour offrir un sacrifice. Et en général, lorsqu'on venait de loin, ben, on ne venait pas forcément avec le sacrifice, on l'achetait sur place. C'était beaucoup plus simple. Vous imaginez, faire plusieurs jours de voyage, il fallait nourrir les bestiaux, enfin bref, c'était compliqué. Donc on achetait sur place. Et eux, ils en profitaient. Ils profitaient de ces étrangers qui venaient de loin, et quand ils changeaient la monnaie, ils avaient un énorme profit. Ils s'engraissaient en fait sur leur dos. Et on voit ici que Jésus n'apprécie pas du tout les profiteurs, ceux qui exploitent la faiblesse des autres. Ces gens se faisaient exploiter, en fait, et c'est pour ça que ça révolte Jésus. C'est une injustice, en fait, et une injustice qui se fait dans la maison de Dieu. Ça n'a pas lieu d'exister, et c'est pour ça qu'il réagit fortement. Et il y a un autre aspect qui ne se voit pas forcément comme ça dans le texte, mais parce qu'il faut avoir une connaissance de la culture juive, c'est que ça privait les païens de s'approcher de Dieu. Alors c'est pas évident si vous ne connaissez pas la culture. La plupart des transactions avaient lieu dans le parvis des nations. Le seul endroit où les étrangers, qui étaient sympathisants d'Israël, pouvaient prier. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'autre lieu. Mais dans ce lieu-là, dans cette cour-là, c'était fait pour eux, en fait, pour qu'ils puissent venir prier. Et en fait, ils occupaient cet espace, ces vendeurs. Et donc, ça privait, quelque part, ces gens de bénéficier de la prière et de pouvoir venir adorer Dieu. Et donc, quand on prive l'accès à Dieu, les amis, c'est grave. C'est ce que faisaient les pharisiens. Souvenez-vous, quand ils rajoutaient des choses, des fardeaux sur les autres, ils privaient l'accès à Dieu et ça a mis Jésus en colère. Et il les a traités d'hypocrites, de sépulcres blanchis, d'aveugles qui conduisent des aveugles. Il a été très dur avec ces gens. Donc vous voyez, Jésus, c'est pas simplement le Jésus doux et gentil. Il est parfois en colère et à juste titre. Et ici, c'est aussi parce qu'ils empêchaient les païens de venir manger les miettes quelque part. Donc, trois raisons. Septième question, quelle est la fonction du temple ? Alors, il y en a plusieurs de fonctions du temple. Si je vous posais la question là maintenant, donnez-moi au moins deux réponses. La première, la plus évidente. À quoi servait le temple ? Qu'est-ce qu'on y faisait au temple? Un lieu de prière. Et à Pâques, on venait avec des animaux pour quoi faire? Des sacrifices. Voilà, c'est pas trop compliqué. Si vous avez déjà dit ça, c'est déjà pas mal. J'en ai mis quatre ici. En fait, le plus important, c'est ça. C'est la présence de Dieu. C'est le lieu où Dieu est présent. Alors attention, quand je dis ça, Dieu est omniprésent. Hein, il est présent partout. Mais parfois, il manifeste sa présence d'une manière particulière. Et c'est ce qu'il faisait ici. Et ça nous rappelle, dans l'Ancienne Alliance, vous vous rappelez, avec l'Arche de l'Alliance. Quand le peuple se déplaçait dans le désert, qu'est-ce qu'il y avait? La nuit, il y avait ça. Une flamme de feu, une colonne de feu. Et le jour, qu'est-ce qu'il y avait? Ici, c'était une nuée, une sorte de nuage qui partait du centre, donc du tabernacle, et qui montait au ciel. Et c'était le repère. Donc comme le peuple était grand, qu'il y avait beaucoup de monde, eh bien on suivait de loin cette grande nuée ou cette flamme qui était là pour représenter la présence de Dieu. Mais Dieu était partout. Dieu est omniprésent. Il remplit tout l'univers, Dieu. Donc il se manifeste ici d'une manière particulière. Donc le temple, c'est déjà ce premier point. Mais c'est pas que ça. C'est bien sûr, vous l'avez bien dit, le lieu des sacrifices et de l'expiation, parce que c'est là où on offrait les sacrifices pour le péché. Et ça pointait vers le besoin de réconciliation avec Dieu, parce que eh bien, notre péché nous sépare de lui. Hein, on a vu avec Adam et Ève, il a fallu l'intervention de Dieu, ensuite avec Abraham, ensuite avec Moïse, et puis avec Ésaïe, etc. Donc c'est vraiment le lieu où on va faire un sacrifice d'expiation. On expie pour que Dieu pardonne notre péché. Le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Donc c'est ça, c'est là où on allait faire le sacrifice au temple. Troisième lieu, c'est un lieu de médiation. Si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que le peuple avait le privilège de pouvoir parler à Dieu? Dans le temple, non. Il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint. Donc on avait un accès au lieu saint, mais pas au lieu très saint. Qui avait accès à ce lieu? Cet homme-là, c'était le grand sacrificateur. D'accord. Alors ça, c'est une image, hein. Mais c'était un homme qui faisait partie d'une tribu que Dieu avait destinée à faire des sacrifices. Aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Jésus, il a déchiré le voile qu'il y a là derrière. Il a déchiré ce voile et il nous donne tous accès au sacrifice. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Lieu de prière et d'adoration, bien sûr, c'était le centre de vie spirituelle. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens, ils étaient tous juifs. En acte 2, qu'est-ce qu'ils faisaient chaque jour? Ils allaient au temple. Ils allaient prier au temple. Donc vous voyez que c'était vraiment un lieu de culte, une sorte d'église, comme on pourrait l'avoir aujourd'hui, un lieu où on allait spécifiquement pour ça. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils pensent à l'église, ils pensent à lieu de prière, surtout nos amis africains. Quand je discute avec eux, on va au lieu de prière. Ah, d'accord. Donc, ils associent le bâtiment à un endroit où on va prier. Est-ce que je me trompe? Ça dépend peut-être, mais en tout cas, en Centrafrique, c'est comme ça, et au Congo aussi. Donc, le temple illustrait à la fois la proximité de Dieu, donc il habite parmi nous, et en même temps la séparation causée par le péché. Donc le voile séparait le lieu très saint, il montrait qu'on ne peut pas approcher de Dieu librement. Et donc j'ai mis cette image, en fait le temple c'était une sorte de passerelle provisoire. Le temple n'était pas appelé à durer éternellement, ce temple-là, d'accord? Le temple fabriqué par la main des hommes. Ce temple, il était là pour relier Dieu, le Dieu qui est saint, à l'homme pécheur. Et il se passait au travers, ici, donc la passerelle, c'était le médiateur, c'était le grand sacrificateur qui nous permettait d'avoir cette connexion et qui validait quelque part nos sacrifices. Et donc, cette passerelle, elle était faite en corde. Ça, c'était pas appelé à durer éternellement. C'était pas une passerelle faite en or, tu vois, massif, inoxydable, inaltérable. Non, c'était quelque chose qui était juste passager, ponctuel, et qui allait laisser place à autre chose. Et là, on va y venir, justement, à cette autre chose. C'est la huitième question. Pourquoi Jésus compare-t-il son corps à un temple ? Qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer ? Voyez-vous un lien avec le texte d'Ésaïe 53 qui parle du Messie qui va souffrir ? Et là, on fait le lien, en fait. On l'a lu, Ésaïe 53, ça fait partie des leçons. Et donc, du coup, on doit pouvoir répondre à ces questions. La déclaration, ici, est prophétique. Jésus est en train d'annoncer quoi ? Il est en train d'annoncer sa mort et sa résurrection. Il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Il n'est pas en train de parler du bâtiment. Hein. Et c'est d'ailleurs, les Juifs sont tombés dans le panneau. Quoi ? On a mis 70 ans pour fabriquer ce bâtiment et toi en 3 jours tu vas le... Non, non. Le bâtiment va être détruit, effectivement, mais en l'an 70. Et en fait, Jésus parlait de son corps qui sera détruit, donc il va mourir crucifié. Et le troisième jour, qu'est-ce qui va se passer ? Il va ressusciter. Jésus annonce ici qu'il devient le nouveau temple. Et c'est là où je fais le pont avec ce que j'ai dit juste avant. Il ne vient pas simplement réformer l'ancien système, il vient le remplacer. Il vient changer cette passerelle, les amis, qui était une passerelle passagère, éphémère, par quelque chose d'éternel, de durable. Jésus est appelé comment dans l'Ancien Testament ? On a dit, ça c'est dans Ésaïe 7, 14, il va être appelé Emmanuel, qui signifie quoi ? Que Dieu est avec nous. Et donc, lorsque Jésus est là, Dieu est avec nous, Dieu est présent, il est parmi nous. Pourquoi ? Parce que Dieu habite pleinement en Christ. En tant que nouveau temple, Jésus est le nouveau lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Il n'y a plus besoin de temple, il n'y a plus besoin du sacrificateur parce qu'il est le temple. Et en plus, il est le grand sacrificateur, nous dit l'Épître aux Hébreux. Donc vous voyez, Jésus, il est tout en fait. Si vous regardez bien, il est le temple, il est le grand sacrificateur et il est le sacrifice. Sans Jésus, les amis, on est mal barré. Mais avec Jésus, on a tout. Il représente Dieu sur terre. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout anodin, ce petit passage ici où il va chasser les vendeurs du temple, on apprend quelque chose d'essentiel sur la personne de Jésus. Est-ce qu'il y a un lien avec Ésaïe 53 ? Est-ce que vous avez trouvé le lien avec Ésaïe 53 ? Ça ne me semble pas très compliqué, à vrai dire, de trouver le lien. Alors, je vous ai mis ici les morceaux de texte en parallèle. Dans Ésaïe 53, le prophète annonce que le Messie sera méprisé. Il va être brisé. Il va être mis à mort pour nos péchés. Et après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il dit qu'il verra une descendance et prolongera ses jours. Alors attends, il va mourir. Et après ça, il verra des jours... Et là, on se dit, tiens, c'est bizarre, de quoi il parle ? C'est vrai, quand on est dans Ésaïe 53... On se dit, il déraille le prophète, il n'a pas compris, il vient d'annoncer la mort et puis là il dit que ses jours vont être prolongés. Ah, il y a un truc qui cloche. Ben non, ça cloche absolument pas. Si c'est la résurrection, c'est tout à fait logique. Il va bien mourir pour nos péchés et il va ressusciter 3 jours après. Et c'est ce que Jésus annonce en Jean 2 ici quand il dit qu'il est le temple. Il devient le temple, c'est son corps. Et son corps va bien être détruit, mais il va être relevé 3 jours après. Les deux textes parlent de la même chose, en fait. Il s'agit de la mort substitutive du Messie, suivie de sa victoire. Jésus annonce ainsi qu'il sera le sacrifice ultime. Plus besoin d'animaux sacrifiés dans le temple. Plus besoin de purification rituelle, les jardeaux. Hein ? Son corps sera brisé et son sang versé vont accomplir ce que tous les sacrifices du temple ne pouvaient pas faire. Nous réconcilier parfaitement et définitivement avec Dieu en accomplissant la nouvelle alliance de Jérémie 31, un des textes que nous avons lus. C'est extraordinaire, les amis, extraordinaire. Là, on découvre quelque chose d'essentiel. Quand vous arrivez à la leçon 6, waouh, on a une dimension de Jésus ici qui explique beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Neuvième question. Dans l'ensemble du passage, qu'est-ce qui amène les disciples à croire ? Alors, c'est assez évident quand on lit le texte. La première chose, c'est les signes miraculeux. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Qui peut manifester sa gloire ici-bas sur terre ? Hier soir, je regardais un reportage sur Elon Musk. C'est l'homme le plus riche de la planète. Il pèse 750 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de manifester sa gloire ? À part acheter quelque chose, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Est-ce qu'il peut faire un miracle devant vous, Elon Musk ? Honnêtement, est-ce qu'il peut transformer de l'eau en vin ? Est-ce qu'il peut arrêter une tempête ? Est-ce qu'il peut ressusciter un mort ? Est-ce qu'il peut guérir un lépreux, quelqu'un du sida ? Est-ce qu'il peut faire ça ? Jésus, il dit qu'il manifeste sa gloire et il le fait premièrement pour un miracle qui paraît assez anodin, en fait, transformer de l'eau en vin, mais un truc qui est assez hallucinant. Il est là, il manifeste sa gloire et en fait, ses disciples crurent en lui à cause de ça. Ils ont eu besoin de voir. Deuxième élément, c'est la résurrection. Au verset 22, on lit « Lorsqu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Donc vous voyez, il a fallu du temps pour qu'ils croient les disciples. Il leur a fallu voir la résurrection. Je rappelle ici, au verset 5, quand il y a Marie qui parle, elle croyait en son fils avant le miracle. D'accord ? Alors que les disciples, eux, ils ont cru après avoir vu. Et là, ça nous montre qu'on est tous différents quelque part. Que Dieu va utiliser des moyens différents pour amener chacun à la foi. Certains auront vraiment besoin de voir l'œuvre de Dieu. Et d'autres, comme Marie, vont le faire sans ce besoin-là. On est différents. Et même la Bible n'insiste pas trop sur les miracles parce que ce n'est pas le miracle en lui-même qui fait qu'on va avoir la foi en Christ. Hein ? Jésus le dit, même si des morts ressuscitaient, ils ne croiraient pas. Ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire, quand on est confronté à l'Écriture, ça devrait être suffisant. Et Jésus dit non, leur cœur est tellement dur que même s'il y avait quelqu'un qui ressuscitait devant leurs yeux, ils ne croiraient pas. J'ai remarqué avec mes amis, souvent, quand ils sont face à un miracle, je leur dis, mais tu vois, on a prié pour ça, tu te souviens pas ? Tu m'avais demandé de prier, tu m'as dit, pasteur, tu peux prier pour moi ? J'ai prié, il s'est passé quelque chose. Et je leur dis, mais alors, pourquoi tu crois pas ? Ah oui, mais ça peut être le hasard. Ah bon ? Il te faut combien de miracles pour que tu arrives à croire ? Vous voyez ? Et en fait, il nous faut un deuxième miracle pour croire au premier. Et puis après, il faudra un troisième miracle pour croire au second. C'est sans fin, le truc. À un moment donné, il faut se dire, stop, j'ai la foi. Je crois que c'est Dieu qui a fait ça. Vous voyez ? Et là, le texte nous y amène. Alors nous, on n'a pas vu la résurrection de Jésus, mais ça a été essentiel. Rappelez-vous que les apôtres étaient terrés comme des lapins au moment, juste après la mort de Jésus. Ils se cachaient. Ils n'osaient pas être en public. Pierre n'ouvrait pas la bouche. Quand il a vu la résurrection, qu'il a vu le Christ ressuscité, il a été capable de mourir, justement, en prêchant l'évangile. Il a osé affronter les foules parce qu'il a vu le Christ ressuscité. Donc la résurrection a eu un rôle essentiel pour les apôtres, hein, et ils crurent parce qu'ils se souvinrent que Jésus avait parlé de sa résurrection. Oui. Dixième question, quel sentiment domine dans ce texte? Alors là, la question, elle est pour nous. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme sentiment qui émane de ce texte? Alors, quand on dit le texte, c'est du verset 1 au verset 22. Donc c'est tout, hein, c'est Cana et ici les marchands du temple. Qu'est-ce que vous voyez comme sentiment? Allez-y. Ça me permet de boire un coup. Rien? Vous dormez? Alors, quand tu dis contraste, ça veut dire qu'il y a au moins deux sentiments. Un qui dit colère, ouais, et l'autre gentil Jésus, sympa, joie, colère, dur, juste. Hein, on voit, c'est vrai que ça balaye un petit peu ça. Alors, la joie festive, moi, vous voyez, c'est pas exhaustif, on peut l'utiliser, mettre d'autres mots. La joie festive, l'émerveillement devant le miracle. Ensuite, un zèle saint, quand Jésus chasse, on voit son zèle en fait, c'est fort, il est indigné. On voit aussi un mystère hein, quand il parle de son temple, de son corps en disant que c'est le temple. Les apôtres n'ont rien dû comprendre, nous on voit ça à la lumière du récit du Nouveau Testament et de tout ce qui s'est passé, mais eux, de quoi il est en train de parler Jésus? Vous voyez, ce n'était pas encore bien ancré. Et puis, la foi grandissante. On voit qu'ils se mettent à croire. Vous voyez, donc, on voit vraiment différentes choses qui se passent ici. C'est toute une gamme d'émotions humaines, mais sanctifiées. Joie, zèle, émerveillement, indignation face au mal, colère juste et maîtrisée, et une foi qui grandit progressivement. Et dernière question, en quoi ce passage change-t-il vos a priori sur Jésus? Alors là, moi, je ne les connais pas, vos a priori. Et peut-être que vous êtes venu ce matin en vous disant « Mais Jésus, finalement, c'était un homme comme les autres. » Peut-être. Mais alors, je ne connais pas beaucoup d'autres hommes comme les autres qui transforment de l'eau en vin, et en bon vin, en vieux vin, en un vin clarifié, un vin qui donne le goût de quelque chose de grandiose. Une petite arvine. Il n'y a pas 50 000 personnes comme ça. Ces actes manifestent qu'il n'est pas un simple homme, mais bien ce que Dieu disait de lui, le Fils de Dieu, l'incarnation parfaite de Dieu, et ce que lui-même prétendait être, le Messie venu accomplir la mission de sauvetage des hommes. Donc non, si c'était votre cas, Jésus est un homme comme les autres, ben non, c'est pas un homme comme les autres. Ici, on le découvre. Peut-être que vous pensez que Jésus était doux et gentil, hein? Oui et non. En fait, Jésus était doux et humble de cœur. La Bible dit à plusieurs reprises, il était doux et humble de cœur. Et il était aussi cet homme qui pouvait chasser des marchands avec un fouet. Sa douceur n'exclut pas sa force. Ce n'est pas de la mollesse, d'accord? Donc, non, Jésus n'était pas que doux et gentil. Et puis d'autres qui voient peut-être Jésus au travers du protestantisme et de Calvin. Jésus était austère et religieux. N'est-ce pas? Si vous regardez Chosen, je pense que vous allez changer d'avis. En tout cas, sans l'avoir vu, juste en regardant le texte, ici on voit que Jésus n'était absolument pas austère. On transforme pas de l'eau en vin quand on est austère, on aurait fait l'inverse. T'as amené du vin, tu n'as pas honte? Allez, vide-moi ces bouteilles dans l'évier, je vais les remplir d'eau. Ce serait typiquement ce que ferait un religieux moraliste. Et ce n'est pas du tout ce que fait Jésus ici. Il veut que l'on se réjouisse ensemble. Et le vin fait partie de la fête. C'est un symbole de joie et d'abondance dans l'Ancien Testament. Et donc du coup, Jésus ne fait que prolonger ça dans le Nouveau. Peut-être que vous pensez que Jésus est simplement venu enseigner une morale. Eh bien ici, il ne présente pas une morale du tout. Il se présente comme le temple lui-même, le lieu de rencontre avec Dieu. Celui qui va mourir et ressusciter, c'est bien plus qu'un moraliste ou qu'un enseignant. Il est Dieu en personne. En fait, vous voyez que les deux événements enchaînés présentent un Jésus assez complet finalement. Joyeux et sérieux à la fois, doux et ferme, généreux et saint, humain et divin. On a tout avec ces deux exemples. On a fait le tour quelque part du personnage. Alors, il y a bien d'autres choses qu'on pourrait dire. Mais voyez, on a vraiment ici les grandes idées sur Jésus. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces deux textes. Jésus, mes amis, est celui qui transforme de l'eau en vin. C'est celui qui va transformer notre religion morte, donc notre eau, en une vie abondante, en vin. Il vient purifier nos cœurs qui sont corrompus et s'offrir lui-même comme le temps parfait où Dieu et l'homme se rencontrent enfin. Et c'est en Jésus que s'accomplit tout le plan de rédemption qui est déjà tracé depuis le troisième chapitre de la Genèse, depuis ce qu'on voit au début. Alors là, je fais une conclusion qui est pour vous, hein, ça ne sera pas forcément enregistré, je ne sais pas si vous jugez que ce sera juste, mais pour moi, s'il y a une chose sur laquelle on doit se centrer cette année, c'est sur Jésus. Parce que vous avez vu qu'il est au centre de ce récit, mais si on veut que notre Église grandisse, si on veut que notre cœur soit transformé, eh bien il nous faut plus de Jésus. Plus Jésus sera présent dans nos vies, plus notre vie sera transformée. Il dit que c'est parce qu'on contemple le Christ de gloire en gloire que nous-mêmes on est transformés de gloire en gloire. Donc, moins on passe de temps avec Jésus, moins on est transformé. Donc, ma prière pour vous, pour moi, c'est de passer du temps avec Jésus. Et vous savez qu'on a structuré l'Église parce que ce n'est pas le dimanche matin finalement. Oui, vous avez quelque part ce matin un rayonnement. Tac, on a mis Jésus en lumière et quelque part ça vous fait du bien. Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin dans la semaine de se retrouver et justement de se rappeler ces vérités pour qu'on puisse grandir ensemble. C'est pour ça qu'on a mis en place dans notre Église des groupes de croissance et des groupes de maison. Il y a la réunion de prière aussi. Ce sont les trois activités phares et on veut vous encourager à y participer. Donc si c'est le début de l'année, que c'est le moment des bonnes intentions, mettez cette priorité dans votre vie. Le groupe de maison, une fois par semaine ou tous les 15 jours. Généralement, c'est tous les 15 jours. Ça va, 15 jours, une fois tous les 15 jours. Si vous voulez grandir, les amis, il faut être au contact les uns des autres. Si on met en place deux week-ends d'église, c'est pour qu'on passe du temps ensemble, pour qu'on vive comme une famille. Et ce sera le thème d'ailleurs de ce week-end-là, la famille de Dieu, la famille spirituelle. C'est ce que nous sommes, une famille. Mais si vous venez que le dimanche matin, en voyant les gens, allez, 10 minutes, ceux qui arrivent en retard, ils n'ont encore pas discuté avec personne. Si vous restez 10 minutes après le culte, vous aurez vu 10 minutes des chrétiens dans votre semaine. Ça fait très court, très très court. Et le reste du temps, vous avez chanté, vous avez prié, vous avez écouté un guignol qui est sur une scène et qui raconte des choses. J'espère que ce n'est pas un guignol. Mais vous voyez que ce n'est pas suffisant. Si on veut grandir, il faut investir. Donc je vais prier pour que Dieu nous rappelle ces choses et qu'on investisse au bon endroit, les amis. On est des étrangers de passage sur cette terre. On doit vivre comme des globe-trotteurs, avec l'espérance que notre ciel, il est là-haut, c'est pas ici-bas. Hein. Le paradis, c'est pas ici-bas. Je pense que les événements tragiques qui nous arrivent nous montrent qu'on n'est pas encore au paradis. Mais nous, on sait où il est et on sait ce qui nous attend. Donc, on a une mission en attendant et c'est ce qu'on veut faire.